Chapitre 11, le marchand de son honneur. C'est le jour où Colombe doit être présentée à la reine. Nous sommes dans une des salles du Louvre, toute la cour est rassemblée. C'est une cohue étourdissante, un tourbillon splendide. Les habits sont superbes et taillés à la dernière mode, les visages sont adorables. Sur la riche et amusante variété des costumes se détachent les pages, vêtus à l'italienne ou à l'espagnole, debout, immobiles, le poing sur la hanche et l'épée au côté. C'est un tableau plein d'éclat, de vivacité, de magnificence, dont tout ce que nous pourrions dire ne serait qu'une bien faible et bien pâle copie. Après le premier éblouissement causé par la confusion et le bruit, et lorsqu'on pouvait séparer les groupes, il était aisé de s'apercevoir qu'il y avait deux camps dans la foule. L'un distingué par les couleurs lilas était celui de Madame d'Étampes, l'autre qui portait les couleurs bleues était celui de Diane de Poitiers. Les partisans secrets de la réforme appartenaient au premier parti, les catholiques purs au second. Dans ce dernier, on remarquait la figure plate et insignifiante du dauphin. On voyait la figure blonde, spirituelle et enjouée de Charles d'Orléans, second fils du roi, courir dans les rangs de l'autre. Les deux ennemis, Diane et Anne, étaient assises aux deux bouts opposés de la salle et pourtant, malgré la distance, chaque raillerie ne mettait pas 5 secondes à passer de la bouche de l'une aux oreilles de l'autre et la riposte, ramenée par les mêmes courriers, revenait aussi vite par le même chemin. Deux groupes de notre connaissance s'étaient tenus à l'écart. C'était d'une part Ascanio avec Cellini. L'autre groupe se composait du comte d'Orbec, du vicomte de Marmagne, de messire d'Estourville et de Colombe, qui avait supplié son père de ne pas se mêler à cette foule qu'elle voyait pour la première fois et qui ne lui causait que de l'épouvante. Le comte d'Orbec, par galanterie, n'avait pas voulu quitter sa fiancée que le prévôt allait présenter après la messe à la reine. Ascanio et Colombe, quoique bien troublés, s'étaient vus tout de suite et se regardaient de temps en temps à la dérobée. Ces deux purs et timides enfants, élevés dans la solitude qui fait les grands cœurs, se seraient trouvés bien isolés et bien perdus dans cette foule élégante et corrompue s'ils n'avaient pu s'apercevoir et se raffermir l'un l'autre par le regard. Ils ne s'étaient pas revus, du reste, depuis le jour de l'aveu. Ascanio avait en vain tenté 10 fois d'entrer au Petit Nel. La servante nouvelle donnée à Colombe par le comte d'Orbec s'était toujours présentée à la place de Dame Perrine quand il avait frappé et l'avait congédiée sévèrement. Quant au parti à prendre, Ascanio, ainsi qu'il l'avait dit à Cellini, sentait que Dieu seul pouvait maintenant le sauver. Aussi réduit à ses seules ressources, le jeune homme avait-il naïvement résolu de chercher à adoucir et à toucher Madame d'Étampes. Voilà donc pourquoi il avait suivi Benvenuto à la cour. La duchesse d'Étampes était retournée à sa place. Il se mêla à ses courtisans, arriva derrière elle et parvint jusqu'à son fauteuil. En se retournant, elle le vit. « Ah, c'est vous, Ascanio, » dit-elle assez froidement. « Oui, madame la duchesse, j'accompagne ici mon maître Benvenuto, et si j'ose m'approcher de vous, c'est qu'ayant laissé l'autre jour à l'hôtel des temples des saints d'Ulysse que vous avez eu la bonté de me commander, je voudrais bien savoir si vous n'en êtes pas trop mécontente. » « Non, à la vérité, je l'ai trouvé fort beau, » dit Madame d'Étampes, un peu adoucie, « et des connaisseurs à qui je l'ai montré, et notamment Monsieur de Guise que voici, ont été tout à fait de mon avis. Seulement l'exécution sera-t-elle aussi parfaite que le dessin, et dans le cas où vous croiriez pouvoir en répondre, mes pierreries suffiront-elles ?»« Oui, madame, je l'espère. Néanmoins, j'aurais voulu mettre au pistil du collier un gros diamant qui tremblerait comme une goutte de rosée, mais ce serait une dépense trop considérable, peut-être, dans un travail confié à un humble artiste comme je suis. »« Oh, nous pouvons faire cette dépense, Ascanio. C'est qu'un diamant de cette grosseur vaudrait peut-être 200 000 écus, madame. »« Eh bien, nous y aviserons. » « Mais, » ajouta la duchesse en baissant la voix, « rendez-moi un service, Ascanio. »« Je suis à vos ordres, madame. » Tout à l'heure, en allant écouter les fadeurs de ce maraud, j'ai aperçu à l'autre extrémité le comte d'Orbec. Informez-vous de lui, s'il vous plaît, et dites-lui que je désire lui parler. « Quoi, madame ? » fit Ascanio, pâlissant au nom du comte. « Ne disiez-vous pas que vous étiez à mes ordres ? » reprit avec hauteur madame d'Étampes. « D'ailleurs, si je vous prie de cette commission, c'est que vous êtes intéressé à l'entretien que je veux avoir avec Dorbeck et qui pourra vous donner à réfléchir, si cependant les amoureux réfléchissent jamais. » « Je vais vous obéir, madame, dit Ascanio, tremblant de mécontenter celle dont il attendait son salut. « Bien, veuillez, en parlant au comte, parler italien. J'ai mes raisons pour cela, et revenez avec lui vers moi. » Ascanio, pour ne pas aigrir davantage et ne pas heurter de nouveau sa redoutable ennemie, s'éloigna et demanda à un jeune seigneur au ruban lilas s'il avait vu le comte Dorbeck et où il était. « Tenez, lui fut-il répondu, c'est ce vieux singe qui cause là-bas avec le prévôt de Paris, et qui se tient près de cette adorable fille. » L'adorable fille était Colombe, que tous les muguets admiraient avec curiosité. Pour le vieux singe, il parut en effet à Ascanio aussi repoussant qu'un rival eût pu le désirer. Mais après un instant donné à cet examen, il s'approcha de lui, l'aborda au grand étonnement de Colombe et l'invita, en italien, à le suivre auprès de madame d'Étampes. Le comte s'excusa auprès de sa fiancée et de ses amis et se hâta de se rendre aux ordres de la duchesse, suivi d'Ascanio qui ne s'éloigna pas cependant sans rassurer par un coup d'œil d'intelligence la pauvre Colombe, toute troublée de cet étrange message et surtout à la vue du messager. Ah, « Bonjour, comte, » dit madame d'Étampes en apercevant Dorbeck. « Je suis charmé de vous voir, car j'ai des choses d'importance à vous dire. » Tous les seigneurs empressés autour de la duchesse se hâtèrent de s'éloigner discrètement et la laissèrent seule avec le trésorier du roi dans une de ces embrasures de croisées vastes comme nos salons d'aujourd'hui. Ascanio allait faire comme les autres, mais sur un signe de la duchesse, il resta. « Qu'est-ce que ce jeune homme ? » demanda le comte. « Un page italien qui n'entend pas un mot de français. Aussi vous pouvez parler devant lui, c'est exactement comme si nous étions seuls. »« Eh bien, madame, » reprit Dorbeck, « j'ai obéi, j'espère, aveuglément à vos ordres, sans même en rechercher les motifs. Vous m'avez exprimé le désir de voir ma future femme présentée aujourd'hui à la reine. Colombe est ici avec son père. » Mais maintenant que j'ai agi selon votre désir, j'avoue que je voudrais le comprendre. Est-ce trop demandé, madame, que de vous demander une petite explication ? Je vais donc vous parler à cœur ouvert. Mais avant tout, je veux vous faire mon compliment. J'ai vu votre Colombe tout à l'heure. Elle est vraiment ravissante. Un peu gauche, c'est un charme de plus. Seulement, entre nous, j'ai beau chercher, je vous connais. Et là, je ne vois pas dans quel but vous, homme grave, prudent, et médiocrement entiché, j'imagine, de fraîcheur et de beauté, vous faites ce mariage-là. Je dis dans quel but, car nécessairement, il y a quelque chose là-dessous, et vous n'êtes pas homme à marcher au hasard. Dame, il faut faire une fin, madame. Et puis, le père est un vieux drôle qui laissera des écus à sa fille. Mais quel âge a-t-il donc ? « Quelque 55 ou 56 ans. Et vous, comte ?»« Oh, à peu près le même âge, mais il est si usé, lui. »« Je commence à comprendre et à vous reconnaître. Je savais bien que vous étiez au-dessus d'un sentiment vulgaire et que les agréments de cette petite n'étaient pas ce qui vous avait séduit. Si donc, madame, je n'y ai seulement pas songé. Eût-elle été laide que c'eût été la même chose. Elle est jolie, tant mieux. » Oh, à la bonne heure, comte, sinon je désespérais de vous. Et maintenant que vous m'avez retrouvé, madame, daignerez-vous m'apprendre ? Oh, c'est que pour vous je fais de beaux rêves, interrompit la duchesse. Ce que je voudrais vous voir, Dorbeck, le savez-vous, c'est la place de Poyet, que je déteste, fit la duchesse en jetant un coup d'œil de haine sur le chancelier qui se promenait toujours avec le connétable. Quoi, madame, une des plus immenses dignités du royaume ? N'êtes-vous pas donc vous-même un homme éminent, comte? Mais hélas, mon pouvoir est si précaire, je règne sur le bord d'un abîme. Tenez, en ce moment je suis d'une inquiétude mortelle. Le roi a pour maîtresse la femme d'un homme de rien, d'un justicier, d'un nommé Féron. Si cette femme était ambitieuse, nous serions perdus. J'aurais dû prendre aussi l'initiative sur ce caprice de François Ier. Ah, je ne retrouverai jamais non plus cette petite duchesse de Brissac que j'avais donnée à sa majesté, une femme douce et faible, une enfant. Je la pleurerai toujours. Elle n'était pas dangereuse, celle-là. Elle ne parlait au roi que de mes perfections. Pauvre Marie, elle avait pris toutes les charges de ma position et m'en laissait tous les bénéfices. Mais cette ferronnière, comme il l'appelle, il faudrait à toute force en distraire François Ier. Moi, hélas, j'ai épuisé mon arsenal de séduction et j'en suis réduite au dernier retranchement, l'habitude. Comment, madame? Oh, mon Dieu, oui, je ne m'occupe plus guère que l'esprit, le cœur est ailleurs. J'aurais bien besoin, vous comprenez, d'une auxiliaire, où la trouver, une amie toute dévouée et toute sincère, dont je sois sûr. Oh, je la paierai de tant d'or que d'honneur. Cherchez-moi-la donc, Dorbeck. Vous ne savez pas combien chez notre souverain le roi et l'homme se touchent de près, et où l'homme peut entraîner le roi. Si nous étions deux, non deux rivales, mais deux alliés, non pas deux maîtresses, mais deux amies, si nous tenions l'une François, l'autre François Ier, la France serait à nous, comte, et dans quel moment, quand Charles Quint vient se jeter de lui-même dans nos filets, quand on pourra le rançonner à l'aise et profiter de son imprudence pour se ménager, en cas d'événement, un avenir magnifique. Je vous expliquerai mes desseins, Dorbeck. Cette Diane qui, vous plaît tant, n'aurait plus prise un jour sur notre fortune, et le chevalier de France pourrait devenir... Ah, mais voici le roi. Telle était la façon de Madame d'Étampes. Elle expliquait rarement, elle le laissait deviner. Elle se met dans les esprits des résolutions et des idées. Elle laissait travailler l'avarice, l'ambition, la perversité naturelle, et puis elle savait s'interrompre à propos. Aussi le comte d'Orbec, âpre aux gains et aux honneurs, rompu et corrompu, avait parfaitement compris la duchesse, car plus d'une fois, durant l'entretien, les regards d'Anne s'étaient dirigés du côté de Colombe. Pour Ascanio, sa droite et généreuse nature n'avait pu sonder jusqu'au fond ce mystère d'iniquité et d'infamie, mais il ressentait vaguement que cette conversation étrange mais sombre cachait un danger terrible pour sa bien-aimée, et il considérait Madame d'Étampes avec épouvante. Un huissier annonça le roi et la reine. En un instant, tout le monde fut debout et le chapeau à la main. « Dieu vous garde, messieurs, » dit en entrant François Ier. « Il faut que je vous annonce tout de suite une grande nouvelle. Notre cher frère, l'empereur Charles Quint, est à l'heure où je vous parle en route pour la France, s'il n'est déjà entré. Préparons-nous, messieurs, à l'accueillir dignement. »« Et moi, messieurs, » dit la reine Éléonore de sa voix douce, « je vous remercie d'avance pour mon royal frère de l'accueil que vous lui ferez. » On répondit par les cris de « Vive le roi, vive la reine, vive l'empereur !» « Madame, dit à la reine le prévôt de Paris en s'avançant vers Colombe, votre majesté veut-elle me permettre de profiter de ce moment de joie pour lui présenter sous d'heureux auspices ma fille Colombe, qu'elle a daigné agréer au nombre de ses dames d'honneur ?» La bonne reine adressa quelques mots de félicitations et d'encouragement à la pauvre Colombe confuse que le roi, pendant ce temps, regardait avec admiration. « Foi de gentilhomme, messire le prévôt, » dit François Ier en souriant, « savez-vous que c'est un crime de haute trahison d'avoir aussi longtemps enfoui et tenu hors de nos regards une semblable perle, laquelle doit faire si bien dans la couronne de beauté qui entoure la majesté de notre reine? Si vous n'êtes pas puni de cette félonie, sire Robert, rendez-en grâce à la muette intercession de ses beaux yeux baissés. » Et puis le roi fit un salut gracieux à la charmante fille et passa, suivi de toute la cour, pour se rendre à la chapelle. « À mon tour de parler nettement et sans embâge, » dit la duchesse au comte d'Orbec quand elle fut seule avec Ascanio et lui. Maintenant, comte, vous avez compris trois choses. La première, c'est qu'il est important pour mes amis et pour moi que mon pouvoir soit en ce moment consolidé et à l'abri de toute atteinte. La seconde, c'est qu'une fois cet événement traversé, nous n'aurons plus à redouter l'avenir, que Charles d'Orléans continuera François Ier, et que le duc de Milan, que j'aurai fait ce qu'il sera, me devra plus de reconnaissance que le roi de France qui m'a fait ce que je suis. La troisième, c'est que la beauté de votre colombe a vivement frappé sa majesté. Eh bien, comte, je m'adresse à l'homme supérieur, que n'atteignent pas les préjugés vulgaires. Vous tenez en cet instant votre sort dans vos mains. Voulez-vous que le trésorier d'Orbec succède au chancelier Poyet, ou, tenez en termes plus positifs, voulez-vous que Colombe d'Orbec succède à Marie de Brissac ? Ascanio fit un mouvement d'horreur que n'aperçut pas d'Orbec, qui échangeait un regard odieusement malicieux avec le regard profond de Madame d'Étampes. « Je veux être chancelier, répondit-il simplement. « Bon, nous sommes donc sauvés, mais le prévôt... »« reprit le comte, vous lui trouverez bien quelque bel office, qu'il soit seulement plutôt lucratif qu'honorifique, je vous prie. Je retrouverai le tout quand le vieux podagre s'en ira. » Ascanio ne put se contenir plus longtemps. « Madame, fit-il d'une voix éclatante en s'avançant. » Il n'eut pas le temps de continuer, le comte n'eut pas le temps de s'étonner, la porte s'ouvrit à deux battants, et toute la cour rentrait. Madame d'Étampes saisit violemment la main d'Ascanio, se rejeta brusquement en arrière avec lui, et de sa voix contenue mais vibrante, lui dit à l'oreille, « Eh bien, jeune homme, vois-tu maintenant comment on devient la concubine d'un roi, et où parfois, malgré nous, la vie nous mène ?» Elle se tut. Au milieu de ces paroles graves, la bonne humeur et les saillies du roi et des courtisans firent, pour ainsi dire, irruption. François Ier était radieux, Charles Quint allait venir, il y aurait des réceptions, des fêtes, des surprises, un beau rôle à jouer. Le monde entier aurait les yeux fixés sur Paris et son roi, attentif au drame intéressant dont lui, François Ier, tiendrait tous les fils, il y pensait avec une joie d'enfant. C'était sa nature de prendre ainsi toutes les choses par le côté brillant plutôt que par le côté sérieux, de viser avant tout à l'effet et de voir dans les batailles des tournois et dans la royauté un art. Splendide esprit aux idées aventureuses, étranges, poétiques, François Ier fit de son règne une représentation théâtrale et du monde une salle de spectacle. Ce jour-là, à la veille d'éblouir un rival et l'Europe, il était d'une clémence et d'une aménité plus charmantes que jamais. Aussi, comme rassuré par ce gracieux visage, Triboulet vint-il rouler à ses pieds au moment où il franchissait la porte. « oh sire !» s'écria lamentablement le bouffon. « Je viens vous faire mes adieux. Il faut que votre majesté se résigne à me perdre. Aussi j'en pleure, plus pour elle que pour moi. Que va devenir votre majesté sans son pauvre Triboulet qu'elle aime tant ?»« Quoi, vas-tu me quitter, fou, au moment où il n'y aura qu'un bouffon pour deux rois ?»« Oui, sire, au moment où il y aura deux rois pour un bouffon. » « Mais je n'entends pas cela, Triboulet, tu resteras, je te l'ordonne. »« Là, suis, faites donc part du décret royal à monsieur de Vieilleville, à qui j'ai dit ce qu'on dit de sa femme, et qui, pour une chose si simple, a juré qu'il m'arracherait les oreilles d'abord et l'âme ensuite, si j'en ai une, toutefois, à ajouter l'impie, à qui votre majesté devrait bien couper la langue pour un semblable blasphème. » Va, va, reprit le roi, sois tranquille, mon pauvre fou, celui qui t'ôterait la vie serait bien sûr d'être pendu un quart d'heure après. Oui, sire, si cela vous était égal. Bien quoi, faites-le pendre un quart d'heure avant, j'aime mieux cela. Tous de rire, et le roi plus que tous. Puis, continuant de s'avancer, il trouva sur son passage Pierre Strozzi, le noble exilé. « Seigneur Pierre Strozzi, lui dit-il, il y a bien longtemps, ce me semble, trop longtemps, que vous nous avez demandé des lettres de naturalisation. C'est une honte pour nous qu'après avoir si vaillamment combattu dans le Piémont pour les Français, et en français, vous n'apparteniez pas encore à notre patrie par le courage, et puisque votre patrie par la naissance vous renie. Ce soir, Seigneur Pierre, Messire Lemasson, mon secrétaire, vous expédiera vos lettres de naturalisation. Ne me remerciez pas, il faut que Charles Quint vous trouve français pour mon honneur et pour le vôtre. Ah, c'est vous, Cellini, et vous ne venez jamais les mains vides. Que portez-vous là sous le bras, mon ami? Mais attendez un moment, il ne sera pas dit, foi de gentilhomme, que je ne vous ai jamais devancé en magnificence. Messire Antoine Lemasson, vous joindrez aux lettres de naturalisation du grand Pierre Strozzi, celles de mon ami Benvenuto, et vous les lui porterez sans frais chez lui. Un orfèvre ne trouve pas 500 ducats aussi aisément qu'un Strozzi. Sire Benvenuto, je rends grâce à votre majesté, mais qu'elle me pardonne mon ignorance, et qu'est-ce que ces lettres de naturalisation? Quoi, dit gravement Antoine Lemasson, tandis que le roi riait comme un fou de la question. Ne savez-vous pas, maître Benvenuto, que les lettres de naturalisation sont le plus grand honneur que sa majesté puisse accorder à un étranger, que par là vous devenez français? Je commence à comprendre, sire, et je vous remercie, dit Cellini, mais excusez-moi, j'étais déjà de cœur sujet de votre majesté. À quoi servent ces lettres? À quoi ces lettres servent? Dit François Ier, dont la joyeuse humeur continuait. Elles servent, Benvenuto, à ce que maintenant vous voici français. Je puis vous faire seigneur du Grand Nel, ce qui ne m'était pas permis auparavant. Messire Lemasson, vous joindrez la donation définitive du château aux lettres de naturalisation. Comprenez-vous maintenant, Benvenuto, à quoi servent les lettres de naturalisation? Oui, sire, et merci, merci mille fois. On dirait que nos deux cœurs s'entendent sans se parler, car cette grâce que vous me faites aujourd'hui est comme un acheminement à cette immense faveur que j'oserais peut-être vous demander un jour, et qui en fait, pour ainsi dire, partie. Tu sais ce que je t'ai promis, Benvenuto. Apporte-moi mon Jupiter et demande. Oui, votre majesté a bon souvenir, et j'espère qu'elle aura bonne parole. Oui, votre majesté peut exaucer un vœu qui tient en quelque sorte à ma vie, et déjà, par un royal et sublime instinct, vous venez de rendre l'accomplissement de ce vœu plus facile. Il sera fait, mon grand orfèvre, selon votre désir, mais en attendant, vous allez nous faire voir d'abord ce que vous tenez là dans vos mains. Sire, c'est une salière d'argent pour accompagner le vase et le bassin. Ah, montrez-moi vite cela, Benvenuto. Le roi examina attentivement et silencieusement, comme toujours, le merveilleux ouvrage que lui présentait Cellini. « Quelle bévue, dit-il enfin, quel contresens !»« Quoi, sire ? » s'écria Benvenuto, au comble du désappointement, « votre majesté serait si peu satisfaite ?»« Sans doute, monsieur, comment vous me gâtez une si belle idée en argent ? C'est en or qu'il fallait m'exécuter cela, Cellini. » « J'en suis fâché pour vous, mais vous la recommencerez. »« Hélas, sire, dit mélancoliquement Benvenuto, ne soyez pas si ambitieux pour mes pauvres ouvrages. C'est la richesse de la matière qui perdra, j'en ai bien peur, ces chers trésors de ma pensée. Mieux vaut, pour une gloire durable, travailler l'argile que l'or, sire, et nos noms ne vivent guère à nous autres orfèvres. » Sire, les nécessités sont parfois cruelles, les hommes toujours cupides et stupides, et qui sait si telle coupe d'argent de moi, dont votre majesté donnerait 10 000 ducats, on ne la fondra pas pour 10 écus. Allons donc, croyez-vous que le roi de France aille jamais mettre en gage chez les Lombards les salières de sa table? Sire, l'empereur de Constantinople a bien mis en gage chez les Vénitiens la couronne d'épines de notre seigneur. « Mais un roi de France la dégagea, monsieur. »« Oui, je le sais. Cependant, songez aux dangers, aux révolutions, aux exils. Je suis d'un pays où les Médicis ont été chassés et rappelés 3 fois, et il n'y a que les rois qui, comme votre majesté, se font une gloire à qui on ne puisse enlever leurs biens. » « N'importe, Benvenuto, n'importe, je veux ma salière en or, et mon trésorier va vous compter aujourd'hui 1 000 écus d'or de vieux poids pour cela. Vous entendez, comte d'Orbec, aujourd'hui même, car je ne veux pas que Cellini perde une minute. Adieu, Benvenuto, continuez, le roi pense au Jupiter. Adieu, messieurs, pensez à Charles Quint. » Pendant que François Ier descendait l'escalier pour aller rejoindre la reine, qui était déjà en voiture et qui l'accompagnait à cheval, divers mouvements eurent lieu que nous ne devons pas omettre. Benvenuto s'approcha d'abord du comte d'Orbec et lui dit « Veuillez tenir cet or à ma disposition, messieurs le trésorier, je vais obéir aux ordres de sa majesté. Allez chercher sur le champ un sac chez moi et je serai chez vous dans une demi-heure. » Le comte s'inclina en signe d'acquiescement et Cellini sortit seul après avoir vainement cherché Ascanio des yeux. Dans le même temps, Marmagne parlait bas près du prévôt qui tenait toujours la main de Colombe. « Voici une occasion magnifique, lui disait-il, et je cours prévenir mes hommes. Vous dites à d'Orbec de retenir le plus longtemps possible le Benvenuto. » Là-dessus, il disparut, et messire d'Estourville s'approcha du comte d'Orbec, auquel il parla à l'oreille, puis il ajouta tout haut « Pendant ce temps, moi, comte, je reconduirai Colombe à l'hôtel de Nesle. » « Bien, fit d'Orbec, et venez m'annoncer le résultat ce soir. » Ils se séparèrent, et le prévôt reprit en effet lentement avec sa fille le chemin du Petit Nesle, suivi à leur insu par Ascanio, qui ne les avait pas perdus de vue une minute et qui regardait de loin avec amour marcher sa Colombe.